RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous, vous êtes avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC la radio et RMC Story la télé. Tant mieux, vous allez pouvoir intervenir, réagir avec nous au 32-16. Vous savez que nous sommes ensemble jusqu'à midi. Qui est là aujourd'hui? Abel Bouilly, l'éducateur. Bonjour Abel.
Salut les amis.
Nous sommes avec le bariolet parce qu'il a une chemise. Alors, combien de couleurs sur ta chemise? Bonjour Emmanuel Demilly, l'entrepreneur.
Bonjour Alain, bonjour à tous. Je suis très fier de cette chemise.
Écoute, tu peux. Elle est unique, je pense.
La chemise du vivre ensemble.
On a du vert, du bleu, du rouge, un peu de rose,
bravo,
et des belles rayures.
Bravo aux créateurs, il y a encore des gens qui ont du talent.
Il paraît qu'en régie, c'est en train de devenir fou avec les plans caméra. Et Fatima Hidbounois est des nôtres aujourd'hui, la professeure de français. Bonjour ma chère Fatima.
Bonjour, bonjour les grandes gueules de Londres, et un petit bonjour particulier à Carla et son père Fernando. J'ai rencontré Carla, elle m'a dit que son père écoutait régulièrement les grandes gueules et son père est formidable, déjà il a donné une fille formidable, mais toute la communauté portugaise qui nous écoute aussi, donc voilà.
C'est pour quand la rentrée, toi, la pré-rentrée? T'as encore un peu de temps, tu veux profiter?
Je ne veux
encore
pas y penser. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour l'instant, vos enfants sont avec vous. Hein, les parents?
Gardez-les, préparez-les.
Voilà, on vous manque. Hein.
De quoi va-t-on parler aujourd'hui dans les GG, dans les grandes gueules? De quoi va-t-il être question durant ces 3 heures? Tout à l'heure, on aura un face au GG avec l'auteur d'un livre sur tous proxénètes. Tous proxénètes, le titre peut interpeller, mais ça veut dire quoi? Lui, il était gestionnaire de biens locatifs meublés sur Airbnb. Bah, il s'est aperçu qu'à travers ces biens meublés, c'était des réseaux de prostitution, beaucoup. Il dit souvent, les gens ne le savent pas. C'est-à-dire, ils louent en Airbnb et il peut y avoir de très mauvaises surprises. On parlera de la prime de naissance à la maternité de Saint-Amand-Mauron. On est dans le Cher. Elle veut maintenir sa maternité et elle dit aux gens de la région, venez accoucher à Saint-Amand-Mauron, c'est une prime de naissance de 1000 euros. Ils veulent maintenir leur maternité au moment où il y a un rapport qui dit qu'il faut fermer les petites structures hospitalières. C'est un véritable enjeu. Il y en a pour 1,5 milliard quand même, le coût de ces structures hospitalières. Vous viendrez commenter ça avec nous tout à l'heure à 10h. En attendant, premier sujet de discussion, les feux, plutôt les incendies et les mineurs impliqués. Là, on a un mineur de 15 ans qui a été mis en examen dans le cadre de l'enquête ouverte sur l'origine de l'incendie qui a provoqué la mort des deux sapeurs-pompiers le mois dernier près de l'aéroport de Bordeaux à Mérignac. En fait, ce gamin de 15 ans, il avait jeté un mégot. Il a fait une enquête longue, minutieuse, reprendre les allées et venues des voitures des uns et des autres pour tomber sur ce gamin, je vais dire ce gosse. Il y a 15 ans, ce gosse de 15 ans. Il a été placé en centre éducatif fermé. Si on regarde globalement, depuis le début des incendies, on a plus de 375 personnes qui ont été interpellées dans le cadre de ces enquêtes. Et parmi eux, 142 sont des mineurs. Mmh. 36 ont déjà été incarcérés. La haut commissaire à l'enfance, Madame Sarah El-Haïry, attire l'attention sur l'éducation et la responsabilité des parents.
Il faut d'abord demander des comptes aux enfants et bien sûr aux parents également. C'est pas un jeu anodin, c'est pas des sensations fortes qu'on va chercher en participant finalement à créer de la scénographie. Cette génération malheureusement est habituée à vivre des créations de scènes avec les réseaux sociaux, avec les médias. Il y a en réalité bien sûr des questions pédagogiques, éducatives, mais aussi des sanctions. Eh bien c'est la protection qu'on leur doit pour qu'ils grandissent dans un cadre clair. Il faut pas minimiser la responsabilité qu'un adolescent a dans son action.
Alors justement, que faire de ces ados? Et est-ce qu'elle a raison de pointer du doigt, comment elle appelait ça, la création de scènes, d'univers? C'est-à-dire, ils disent, je vais créer un mur de flammes et ensuite je vais regarder ce qui se passe. Est-ce qu'effectivement on a affaire à une génération incendiaire à cause des réseaux sociaux? 32-16 pour en parler avec nous, Abel.
C'est pas à cause des réseaux sociaux. Déjà, il y a un problème d'éducation.
Non, du monde virtuel.
Effectivement, les réseaux sociaux viennent
les
toujours.
Défis aussi, hein.
Voilà, viennent toujours amplifier un autre type de défi. Il y a eu l'éclipse, il y a eu des défis sur Internet où regarder l'éclipse sans lunettes et après vous verrez si vous n'êtes pas malade ou pas. Donc effectivement, à cause de cette scénographie des contenus des réseaux sociaux, vous avez de plus en plus de jeunes qui, pour devenir n'importe qui, sont prêts à faire n'importe quoi. Donc effectivement, je ne suis même pas étonné, malheureusement, de voir qu'il y a autant de mineurs qui peuvent s'adonner à des jeux de pyromanie, qui sont des jeux abominables et mortels, d'autant plus que ça détruit la nature, et qui en plus sont prêts à filmer, parce qu'il y a eu des vidéos aussi sur Snapchat, sur TikTok, sur le Darknet. C'est ça qui est terrible, et des gens qui se vantent de ce type de contenu. Donc, les premières personnes qui doivent être interpellées, sont effectivement les parents. Une personne, jusqu'à sa majorité, est dépendante de ses parents, sous la responsabilité des parents, lorsque ceux-ci sont présents, bien entendu. Et effectivement, au bout d'un moment, il va falloir les remettre sur le devant de la scène. Parce qu'au bout d'un moment, on a toujours dit, faut pas stigmatiser les parents. Mmh. On a opposé les familles monoparentales aux familles où papa et maman étaient présents. Alors que ça ne veut rien dire. Vous pouvez être issu d'une famille monoparentale et être très bien éduqué. Donc c'est un débat qui n'avait pas lieu. Maintenant, la place de la parentalité dans la société. Parce que celle-ci, elle est remise en question, elle est battue en brèche, et d'ailleurs tout ce qui est représentation de l'autorité est battu en brèche avec cette amplification sur les réseaux sociaux qui est mortifère. Et moi, je le dis toujours, chez les 16-25 ans, on en a beaucoup qui sont déjà une génération perdue. Faut pas avoir peur de le dire, et il faut taper dès l'école primaire. Mais là,
par exemple, ce gamin de 15 ans qu'on a mis au centre éducatif fermé, parce qu'il a jeté un mégot délibérément, d'autres qui sont en prison, faut dire aux parents, il faut pas se contenter, c'est ce que tu dis, de punir l'enfant. Faut aussi faire venir les parents, voir dans quel univers il évolue. Et puis, Emmanuel Devillers, qu'est-ce que t'en penses?
Moi, je reprendrai le propos d'Abel en l'explicitant à ma manière. En fait, il y a trois choses pour moi. Il y a l'amplification de l'immersion des jeunes dans l'univers de la communication. Qui est un élément complètement nouveau avec les smartphones, les réseaux sociaux et tout le caractère sociologique qui entoure chaque jeune dans son cercle relationnel. Le deuxième point, par voie de conséquence, c'est la tentation de créer l'événement comme une volonté personnelle d'exister. Mmh.
Tu crois qu'il s'est vanté, le gamin qui a jeté le mégot, qu'il a dit à ses potes ensuite,
mais si
c'est
moi
qui ai foutu le feu?
Si on se place au plan de la société et de l'ordre commun, le plaisir affreux de ces initiatives n'est rien à côté des conséquences dramatiques pour ces incendiaires.
Là, il y a eu de mort, en plus.
Et la répression doit être implacable, car seule la répression peut dissuader face à cette volonté.
Alors, ce gamin de 15 ans,
face à cette volonté égotique personnelle, ouais, d'exister
sur
les réseaux sociaux.
Ce gamin de 15 ans qui est en centre éducatif fermé là derrière, parce que il va être jugé effectivement.
Il faut revenir sur les excuses de minorité.
D'excuses de minorité.
Non, les comportements maintenant qui jadis étaient à 17 ou 18 ans.
Ça partir.
Il faut se souvenir que c'est Giscard qui a ramené la majorité de 21 ans à 18 ans il y a une cinquantaine d'années. Mais maintenant, on peut considérer que par rapport à 74, une personne de 13 ans voire en dessous est équivalent à ce qu'elle était à 17-18 ans.
Donc ce gamin de 15, il faut juges comme un adulte.
Il faut des sanctions drastiques, parce que il vaut mieux faire une injustice avec un jeune pour faire que la France et la société tiennent face au drame des incendies.
Fatima.
Moi, je trouve ça assez insultant de parler de génération pyromane. C'est très insultant pour tous les... Comme si c'était un phénomène générationnel. Et c'est très insultant parce que dans la même génération, on va avoir au contraire des jeunes qui organisent des actions pour aller ramasser tous les mégots. Et je le vois dans mes classes. On va avoir dans une même classe des enfants qui ont des comportements de délinquance vraiment très, très graves. Et même génération des jeunes filles, notamment, qui vont être incroyables, extraordinaire de maturité, de qui sont même nettement mieux que moi à leur âge, c'est-à-dire que j'admire. Donc j'ai toujours du mal quand on parle de ces générations en disant génération perdue. Là on voilà, donc moi là
souvent
le
peut-être
terme,
plus les femmes,
oui, mais
que
Fatima,
les garçons,
tu sais très
juste,
bien
attends,
comment eux-mêmes
non,
les jeunes
attends,
ils parlent de
non,
cette
non, mais
génération.
Attends, non mais
vois,
je finis parce que je vous ai laissé finir. Donc le terme génération pyromane, je n'aime pas. Moi ce que je remarque dans cette génération là, c'est l'écart, le grand écart des personnalités. Ça veut dire les pires sont encore pires et les mieux sont encore mieux. Il y a une forme de grand écart comme ça, qui est fou. Donc tout ce qu'on pouvait observer sur l'adolescence, vous savez, le cerveau, le cortex préfrontal qui n'est pas fini, tout le fait qui fait qu'un adolescent va avoir des comportements à risque, va vouloir se prouver des choses et tout ça, on le voit d'une façon encore plus spectaculaire aujourd'hui. Et sur le reste, je rejoins ce que tu dis, Abel, sur la responsabilité des parents, je rejoins ce que tu dis sur l'ego, la volonté d'exister, la volonté d'être quelqu'un, de faire parler de soi, le sentiment de puissance. Parce que celui qui a envoyé son mégot et qui voit tout ça, il a l'impression d'être tout puissant, d'être quelqu'un.
Il a l'impression d'être tout puissant, ou à un moment il est complètement perdu,
rien,
il a peur, il se dit
c'est un pauvre type.
Tu vois, est-ce qu'il s'en rend compte? Parce que c'est ça derrière, c'est est-ce qu'ils s'en rendent compte, ceux qui sont incarcérés? D'abord,
ados,
combien de temps ils vont rester en prison? Qu'est-ce qu'on fait d'eux après, si tu veux, tu vois?
Alors,
comment on les reprend en main? Qu'est-ce qu'on fait des parents? Est-ce qu'on dit aux parents, voyez là, votre fils, il a fait brûler 80 hectares, je sais pas, tu vois, par exemple. Donc, l'article du code civil prévoit la responsabilité aussi civile des parents et donc les dédommagements, tu vois. Qu'est-ce que tu fais? Tu saisis leur maison, tu ponctionnes sur leur compte pendant 15 ans jusqu'à ce qu'ils remboursent une partie des dégâts ou des dommages. Il y a ça aussi qui est important,
mais
Emmanuel.
Mais Père Marshall, c'est même un peu diabolique, tous ces feux de l'enfer que l'on crée avec une
surpuissance. Il y a le plaisir du mal, hein.
Vient de le dire.
Mais déjà, là, on peut pas dire que la justice a été lente, parce que pour intervenir en centre éducatif fermé, je peux te dire que ce sont des conditions très dures, hein. Mmh. Ce sont des prisons pour jeunes, en fait. C'est vraiment dur, avec des effectifs souvent restreints. Et tu as certains centres où tu as énormément de violence entre jeunes, et le petit dernier qui arrive, il peut se retrouver dans une situation...
Il va pas sortir forcément meilleur du centre éducatif fermé, bah
parce que
le gamin de
prison. Là, par rapport à la prison, tu as quand même des éducateurs qui sont là et qui essaient de faire un suivi le plus personnalisé possible quand cela est possible, parce que c'est extrêmement dur avec des jeunes qui sont souvent baignés dans la violence. Maintenant, on attend de voir ce qu'il en sera pour la suite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le jeune face à sa connerie. Mais tu as de tout. Tu as des jeunes qui font des conneries, qui en sont fiers, ça leur permet de montrer, en plus, avec les mouvements masculinistes, que ce sont des gens qui ont des coronesses. Et tu as des jeunes qui font des conneries et c'est seulement après, ils tombent dans un remords en se disant, waouh, qu'est-ce que j'ai fait? C'est exactement comme t'as des jeunes qui regardent des vidéos de meurtre, de décapitation et qui se peignent après d'avoir des traumatismes et de ne faire que des cauchemars alors qu'ils pensaient que ça allait être une formation pour devenir un homme.
Les centres éducatifs fermés, ils sont enchambrés, comment c'est organisé?
Oui, c'est enchambré. En général, tu peux être un ou deux, mais t'es vraiment isolé de tout. C'est-à-dire que chaque porte de chaque couloir, tu vois, c'est scellé à clé ou alors une carte automatique. C'est pas le Club Med, le centre éducatif.
Regarde cette année, les mineurs, comment on a parlé d'eux. Je parle pour les cas les plus graves. On a parlé de la génération couteau.
Ouais.
Et là, les autorités, quand tu discutes même avec les pompiers, disent c'est pas possible. On s'imaginait pas avoir autant de jeunes, des gamins, hein, des mineurs, autant de gamins impliqués dans ces affaires d'incendie. Donc, si tu veux, il y a un moment, faut quand même s'interroger sur cette jeunesse ou cette partie de la jeunesse que nous sommes en train de fabriquer. Alors, est-ce que c'est nous qui la fabriquons ou est-ce que c'est l'absence des parents? Parce que là, la secrétaire d'État à l'enfance, elle pointe du doigt la responsabilité des parents. Parce que celui qui a fait la bêtise, c'est une chose.
Oui.
Mais dans quel cadre il a évolué? Comment tu en parles avec ses parents? Qu'est-ce que tu fais derrière, quoi? Il y a ça aussi.
Alain, on a quand même, en toile de fond, on le dit tous les jours ici, mais le laxisme français, car on vient d'apprendre que les terribles incendies non loin de mon habitation dans le Pas-de-Calais, qui sont complètement inédits puisque la côte brûle, sont dus directement à des rixes entre les forces de l'ordre et des migrants qui ont mis le feu à toute la lande côtière.
Ça pourrait être des passeurs qui ont mis le feu à des embarcations aussi, justement, pour pas être
saisis. Mais c'est quand même incroyable d'en arriver là.
Non, mais juste sur la question de l'autorité. Moi, je crois que le grand problème, c'est que on a confondu, beaucoup de gens ont confondu la bienveillance avec le laxisme. C'est-à-dire qu'on pense que être bienveillant, c'est ne pas mettre de limites, être comme ça, dans une espèce d'écoute molle, alors qu'un enfant a bien entendu besoin et de limites et de consignes claires, et que la bienveillance, c'est vouloir le bien, mais vouloir le bien, ce n'est pas tout laisser passer. Et au contraire, moi je sais très bien que lorsqu'on a des conversations, même avec les élèves en classe sur ça, sur l'autorité, ils sont au contraire, ils attendent des adultes qui jouent le rôle d'adultes. Ils ont même une forme de mépris pour les adultes qui sont trop copains, un peu mous. Moi, ils les méprisent complètement. Ce qu'ils veulent, c'est quelque chose. Ils sont pas contre les règles, mais ils veulent des règles claires et des règles justes. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est un adulte qui a des règles pour un élève et puis qui va changer pour l'autre. Ça, ils détestent, mais parce que c'est injuste. Par contre, des règles ferme, des règles du jeu, les enfants peuvent se soumettre à ça.
Je pense que si tu veux, les parents, ils ont commis une erreur, ou une partie des parents a commis une erreur. On s'est acheté une nounou et de la tranquillité avec les réseaux sociaux, avec ce qui se passe sur Internet.
Ah oui, mais pas
en disant, tu vois, bon, tu sais, avant on disait, il est dans sa chambre, il lit, est tranquille. Bon, et ce qui était vrai. Non, mais laissez-le. Oui, dessine. Mais ça, c'était facile. Tu ouvrais la porte et tu voyais le gamin, il est en
avec Internet, lire, t'as le monde
lisait,
dans la chambre.
Où il lisait une BD. Là, il est. Mais il est sur Internet, il est sur ses jeux vidéo, il est tranquille, etc.
Alors,
et on ne s'est pas rendu compte.
Mais maintenant, rendez-vous compte que
les psychologues, les psychiatres aujourd'hui te disent que certains se sont fait des, et ne font plus la différence entre la réalité et le virtuel.
Non, mais on a toujours...
Ce qu'ils font qui est grave, alors que pour eux, mais non, la personne se relèvera. Ou après, je pourrai appuyer sur reset, et puis le mur se remettra en entier, ou les flammes s'éteindront.
On a souvent dit ça, que c'était les jeux vidéo, que c'était les choses. Il y a plein de gens... Moi, j'ai joué aux jeux vidéo quand j'étais jeune. J'ai plein d'amis qui ont joué aux jeux. On ne devient pas un tueur en série seulement parce qu'on joue aux jeux. Ce qui manque, c'est quand t'as aucun adulte autour pour mettre les limites. Si on laisse l'enfant jouer à Roblox pendant des heures en disant c'est juste Roblox, sachant que même sur des jeux, on peut avoir des pédocriminels déjà en embuscade. Là où il y a des ados, il y a des pédos. Voilà. Là où il y a des ados, il y a des pédos. Des ados seuls, encore plus de pédophiles. Donc tous les jeux qui semblent safe comme ça, donc déjà il y a des pédocriminels, il y a des rabatteurs pour tout et n'importe quoi. Et la question d'être un adulte, quand on met au monde un enfant, on met au monde l'inquiétude. Ça veut dire mettre au monde un enfant, c'est pour toujours et être toujours derrière son dos. Ça veut dire jusqu'à au moins la majorité. On est obligé de surveiller, de contrôler, de regarder. Parce que sinon,
surveiller, contrôler, regarder,
savoir tout simplement passer du temps de qualité. Tu sais, il y a quelques mois, je fais une intervention dans une classe de CM2. Et j'ai plusieurs filles dans la classe qui me disent à la maison, je m'ennuie, donc je suis sur mon téléphone portable parce que papa est sur son téléphone, maman est sur son téléphone, grand frère est sur le téléphone. Lorsqu'on est à table, il y a un couteau, une fourchette, un téléphone portable. Donc moi, je suis sur Internet. Et je donne toujours cet exemple où j'ai été effaré de voir une fille qui me dit qu'en CM2, elle regarde des vidéos de viol sur Telegram, en CM2. Donc qu'est-ce que ça va donner? Il y a quelques semaines après, en cinquième, des jeunes qui se partagent des vidéos de viol sur Snapchat, et aussi bien des jeunes filles que des jeunes garçons. Donc le fait que Internet, les réseaux sociaux qui étaient censés nous rapprocher, nous ont éloignés. On ne sait plus passer du temps de qualité. Les enfants ne savent plus s'ennuyer. Ils ont besoin d'avoir toujours quelque chose en fait pour exciter leur cerveau. Ils ont besoin d'une dopamine constante en réalité. Donc comment est-ce qu'on va retrouver ce temps? Et pourquoi je parle de génération perdue? Et moi, c'est un terme que j'assume. Ça ne veut pas dire que 100% des jeunes sont mauvais. Et on sait toujours que c'est une minorité délinquante qui salit l'image de la majorité silencieuse. Mais il y a un phénomène à cause de la mauvaise utilisation des réseaux sociaux, c'est pas pour dire qu'Internet c'est nul, qui est en train de flinguer le cerveau de nos jeunes. Ça, c'est une réalité.
Jean-Baptiste veut réagir, il est au 32-16, il est en Ille-et-Vilaine. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour l'équipe.
Vous êtes effaré d'avoir autant de jeunes là qui sont impliqués dans les incendies, qu'est-ce que vous en dites?
Les incendies, tout ce qui est criminalité, délinquance, ça tient à la folie totale. Et comme disait votre collègue tout à l'heure, j'ai perdu son nom, qui est juste intervenu. Abel, voilà. C'est vrai que les réseaux sociaux, c'est une catastrophe. On peut voir sur les réseaux sociaux des choses dépassant tout l'étonnement. Et je sais même pas pourquoi on...
Ils se rendent pas compte de ce qu'ils font, c'est ça? Ou au contraire, ils le font pour exister ensuite sur les réseaux sociaux, Jean-Baptiste.
Ils le font pour exister, parce que la preuve, regardez, quand il y a eu le jeune qui a arrosé tout le monde dans...
Hamza Ladouane.
le petit con qui aurait fallu mettre une claque. Mais bon, après, voilà. Mais,
un coup de pied au cul.
Ouais, c'est ça. Le problème qu'il y a, c'est que maintenant, si vous disputez votre enfant... vous disputez votre enfant, il va se plaindre à l'école, vous allez vous retrouver avec la gendarmerie ou la police qui va venir vous interroger, tout simplement parce que bientôt vous êtes un mauvais parent alors que vous avez simplement essayé de mettre des règles dans votre maison. Donc c'est vraiment très compliqué.
Jean-Baptiste, vous avez raison. Merci d'avoir été avec nous. C'est la responsabilité des parents. C'est pour ça qu'à travers ces enfants, là, ces jeunes, ces mineurs qui ont été interpellés, il faudra ensuite avoir les parents. Et puis la responsabilité civile aussi. Derrière, il y aura des dommages et intérêts. Je dis pas qu'ils paieront l'ensemble des dommages et intérêts. Ça ne fera pas revenir les deux pompiers malheureux qui sont décédés. Mais
de façon,
ils peuvent au moins participer ensuite.
Mais toutes les responsabilités des parents.
Où qu'on regarde, regarde. Dans les dérèglements de l'ordre social français, il y a toujours, très rapidement, le problème de l'inefficacité judiciaire, de la réponse insuffisante Vous évoquiez hier les États-Unis avec peut-être des réponses qui sont caricaturales, mais à un moment donné, il y a que ça qui marche.
Mineur incendiaire, est-ce qu'on a affaire à une génération pyromane? C'est la question qu'on a posée de manière un peu provocatrice. Vous dites oui quand même à 64,7%. Dans un instant, la question est à la une de bon nombre de journaux aujourd'hui. Est-ce qu'on va manquer d'eau potable? Est-ce que des villages vont se retrouver, des communes vont se retrouver complètement à sec, privées d'eau? Est-ce qu'on va vers une pénurie d'eau? Qui doit payer? Est-ce qu'on doit payer l'eau plus cher pour justement nous inciter à l'économiser? Ce sont des questions qu'on va se poser avec vous, dans les GG bien sûr, avec vous au 32-16 et avec une hydrologue.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
GG les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Aujourd'hui, nos trois GG, nous sommes avec Emmanuel Devilliers, l'entrepreneur, Fatima Hidbounois, la professeure de français, et Abel Bouilly, l'éducateur. Le pays est toujours dans la canicule, on va en sortir petit à petit. On est dans la sécheresse, on a des restrictions d'eau, justement, on va parler de l'eau avec vous au 32-16. Est-ce qu'on va manquer d'eau potable? Est-ce que vous êtes prêts à payer plus cher l'eau aujourd'hui? On en discute avec une spécialiste.
RMC, face aux grandes gueules.
C'est l'hydrologue Emma Aziza qui est avec nous. Bonjour,
bonjour.
Emma Aziza. C'est la une du quotidien aujourd'hui en France, Le Parisien. Va-t-on manquer d'eau potable? Alors je vous pose la question, oui ou non, est-ce qu'on peut manquer d'eau potable en France?
Alors oui, on a déjà manqué d'eau potable dans plus de 1300 communes en 2022. C'était impensable en France il y a encore 10 ans. Et aujourd'hui, on voit qu'on bascule de manière chronique dans une situation. Alors, il y a deux éléments à différencier. Il y a premièrement parfois des réseaux qui sont dysfonctionnants. Et donc, c'est pour ça qu'on manque d'eau potable localement dans certains petits villages. Dans d'autres, eh bien, c'est parce qu'on est connecté à une ressource de surface qui est en train de s'épuiser. Et donc là, il va falloir aller chercher de l'eau plus loin ailleurs. Il va falloir réussir à se connecter, en fait, à d'autres masses d'eau qui sont beaucoup plus résiliente face à ces sécheresses. Mmh. Donc il va falloir essayer de travailler tous ensemble.
Est-ce qu'il va falloir payer l'eau plus cher?
Et oui, il va sans doute falloir payer plus cher, premièrement parce que ces canalisations, il faut les remettre en état, et d'autant plus avec ces températures caniculaires, quand il fait 50 degrés sur le sol, on imagine bien que les canalisations à 80 cm dessous, eh bien, sont en train de payer un prix fort, et donc il va falloir revoir tout ça, tout simplement pour limiter les fuites, mais aussi parce que, tout simplement, c'est un système vieillissant. Moi, j'ai rencontré des maires dans des communes qui ont des financements pour réussir à refaire l'intégralité de leur réseau en eau, il leur faudra 30 ans avec les financements qu'ils ont. D'autres, il leur faudra 300 ans. Donc on voit très bien que tant qu'on ne met pas les financements au bon endroit pour refaire l'intégralité de nos tuyaux, eh bien, cette alimentation en eau potable qu'on a depuis l'après-guerre, qui semble magique, eh bien, est mise en défaut dans certains endroits.
Oui, mais alors, est-ce qu'on doit payer aussi en fonction de ses revenus? J'exagère un peu, mais il y a des communes, par exemple, on s'est aperçu qu'il y avait des gens qui tiraient l'essentiel de l'eau pour leur usage personnel, leur grand jardin, leur propriété. Et du coup, certains n'ont plus d'eau, mais ils disent, mais c'est pas moi. Moi, j'ai pas de jardin, j'ai pas de grande propriété. On a vu ça dans le Sud. Ouais. Pourquoi est-ce que finalement, je suis pénalisé, vous voyez? Est-ce qu'il va falloir faire varier les paiements de l'eau ou pas?
Oui, à plusieurs niveaux. Premièrement, parce qu'on a un principe français qui est que l'eau paye l'eau. Donc moi, j'ai rencontré des maires qui m'ont dit, mais on est en 2022, 3 semaines après, il y avait plus d'eau dans toute la commune, et ils m'ont dit, non mais vous comprenez bien que je ne peux pas mettre en place toutes les solutions qui économisent l'eau. J'aurais dit, mais c'est simple en fait, vous mettez des mousseurs dans les robinets, des réducteurs de débit de douche, vous travaillez sur les toilettes, et vous allez tenir 2 fois plus longtemps, au moins pour attendre la prochaine pluie. Il me dit, mais je ne peux pas, parce que moi j'ai des factures à payer, j'ai des appels d'offres, et en fait, si je reçois pas la quantité financière de cette eau que payent les habitants, eh bien, en réalité, je peux pas tenir. Donc, en fait, il y a une sorte de double discours où faut économiser l'eau, il faut faire attention. Et puis, d'autre part, ben, quand même, l'eau, c'est une manne financière qui est très importante. Donc, la logique est en train de changer. On est en train de se dire qu'il faut arrêter de regarder les consommations uniquement, mais regarder peut-être le nombre de mètres carrés. C'est une logique qui est en train de se transformer. Mais surtout, il va falloir, effectivement, avoir un double échelon. C'est-à-dire que ceux qui consomment dans des piscines, c'est déjà le cas, par exemple, sur la Côte d'Azur. On voit très bien que on paye beaucoup plus cher quand on remplit sa piscine. Mais les gens n'hésitent pas à payer, et ça permet de financer les fuites.
Fatima Hidbounois.
Alors, ce qui m'embête un peu, déjà, merci de vous intéresser à ce sujet, parce que pour moi, c'est un sujet majeur et qui a été longtemps négligé. La deuxième chose, très souvent, lorsqu'on en parle, on fait comme si ce n'était pas encore arrivé en France, mais on pense à la France, à la métropole uniquement. Mais finalement, quand on regarde, c'est déjà le cas. Si vous regardez Outre-mer, département d'Outre-mer, territoire d'Outre-mer, c'est déjà le cas.
Ouais.
Et vous vous souvenez, déjà il y a un an, on en avait parlé, il y avait des situations catastrophiques.
C'est quand ils ont de l'eau qu'ils sont contents, hein, de manière régulière. Hein.
Donc ouais. Il y a déjà ce truc-là où on se dit, est-ce que ça va arriver en France? Ça arrive en France, puisque voilà, la France n'est pas que la métropole. Première chose. Et tout le monde se moquait de Jean-Claude Van Damme. Vous vous souvenez cette image où il boit de l'eau? Il dit « j'aime l'eau ». Bientôt, il n'y en aura plus. Et tout le monde s'était moqué de lui en se disant « mais qu'est-ce qu'il est stupide ». Vraiment, pour moi, il est loin d'être stupide. J'avais un professeur de géographie en prépa qui nous avait dit « la prochaine guerre sera une guerre de l'eau ». Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation-là ?
J'en suis convaincue, ça fait 20 ans que j'étudie le cycle de l'eau. On est actuellement en train de perdre nos réservoirs continentaux. Et d'ailleurs, un chiffre qui, moi, me semble absolument incroyable et qui est fourni par une étude qui est menée par la NASA avec des nouvelles formes de satellites qui nous permettent de mieux comprendre ces jeux de bascule entre les réservoirs, qui nous montre que aujourd'hui, la surélévation des océans est beaucoup plus liée au fait d'avoir pillé toutes les nappes souterraines, qu'elles soient superficielles ou qu'elles soient fossiles, et que cette eau qui ne peut plus rentrer par des sols artificialisés, eh bien elle finit en mer, eh bien ce niveau de surélévation est supérieur à la fonte de l'Antarctique, de l'Arctique et du Groenland. Donc il faut se poser cette question, c'est-à-dire qu'on est en train de perdre l'eau continentale, c'est le cas partout, les sols s'assèchent, on le voit juste en France, nos petits cours d'eau sont complètement à sec, ces petits chevelus, c'est ce qui permet de tenir toute la vie dans nos territoires, et c'est pas avec des grosses canalisations et de la désalinisation qu'on va leur permettre d'avoir de l'eau. Donc oui, on est en train actuellement de se transformer, parce que on a considéré la question de la ressource en eau de manière très anthropocentrée. On était toujours concentré, on l'est d'ailleurs dans les débats publics, regardez, c'est vous êtes pro-bassine ou vous êtes contre les bassines, on a l'impression que c'est la seule solution qui existe, puis vous avez les pour et les contre. Je crois qu'il faut mettre beaucoup plus d'intelligence.
Mais vous êtes pour ou vous êtes contre ?
Moi, je suis totalement contre, et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que c'est de l'eau croupissante qu'on vient prélever massivement dans une nappe avant que cette nappe soit interdite au prélèvement. Il y a d'autres solutions plus pertinentes. Et donc, je pense qu'au lieu d'avoir une vision très manichéenne, on doit essayer de réfléchir à stocker cette eau. Bien sûr, il y a deux endroits où on peut la stocker. Il y a les nappes, massivement. Regardez, je vous donne un exemple sur le bassin de la Garonne. Une expérimentation est en cours et fonctionne. On a pris les hautes eaux dans les cours d'eau quand on a eu des eaux très importantes avec des crues. Et donc, ces hautes eaux ont servi à alimenter artificiellement des nappes. Donc, en fait, on a créé des sortes de bassines là pour pouvoir réussir à remplir les nappes. On est monté de 4 mètres de hauteur dans toute la nappe de la Garonne qui a permis de tenir beaucoup plus facilement la sécheresse. Donc, les nappes sont déjà un réservoir. Les sols en sont un autre. Si vous prenez, par contre, des bassines, on a trois problèmes. Des développements algaires, des développements cyanobactéries et des développements... C'est très simple, vous mettez de l'eau qui est croupissante. Si vous n'avez pas un système de biofiltration, eh bien, ça ne marche pas.
Oui, mais ne prenez pas les agriculteurs pour des imbéciles. Ce que vous venez de dire, ils le savent parfaitement, ils savent parfaitement le gérer.
Je crois que malheureusement, pour l'instant, on est vraiment dans une logique où on construit un trou, on met de l'eau dedans, on l'utilise avant qu'elle soit interdite. Je pense qu'il faut mettre de l'intelligence. Il y a sans doute des systèmes de récupération d'eau.
Madame, sauf le respect, l'eau dans les nappes phréatiques, c'est formidable, mais c'est un truc d'universitaire.
Non, je crois pas. Si la région de Toulouse utilise,
ensuite,
je pense que derrière, c'est
la dernière grande sécheresse, c'est il y a 50 ans, tout juste 50 ans, 1976.
Oui.
Donc, certes, le problème est réel, mais il faut arrêter avec tout ce catastrophisme écologique qui est un business pour emmerder le monde.
Alors, je comprends, mais alors moi, je suis ni dans la question écologique, ni dans la question politique. J'essaye simplement d'analyser ce qui fonctionne
pardon,
ou pas.
Pardon, madame, une hydrologue en temps normal, on n'en a rien à foutre.
Bon, bah, sans doute. En tous les cas, vous en aurez sans doute de plus en plus à faire quelque chose dans les années à venir, c'est sûr.
On est quand même face à... aujourd'hui un pays qui est en 70% restriction d'eau.
Bien sûr.
Alors, il va peut-être il va repleuvoir à un moment, bien sûr, mais ça doit quand même nous faire réfléchir sur la manière dont on doit gérer. Regarde, cet hiver, tout le monde a dit il y aura pas de problème. Cet hiver, on a dit oh, regardez ce qu'il pleut, il y aura pas de problème, tout va bien se passer au printemps et cet été. Sauf que là, on voit que ça se passe pas bien.
Oui, les bascules
on dira
sont violentes.
En janvier, puisque la grande différence avec 76, fin 75, la sécheresse était déjà affirmée par un déficit hydrologique extraordinaire.
Donc tu dis, c'est cyclique, arrêtons de nous emmerder, c'est cyclique, quoi, oui, c'est ça.
Il y a sans doute une tendance problématique, et je vais pas contre les arguments de madame qui est une scientifique, mais il faut arrêter de patauger dans ce catastrophisme qui nous tire vers le bas.
C'est du catastrophisme ou pas?
Je crois pas. Je pense qu'il faut du courage, de la lucidité. Je crois qu'il y a des maires qui sont en train de transformer, certains éventrent leur ville pour pouvoir remettre à niveau leur réseau, et les habitants le comprennent. D'autres, comme le président...
Le réseau, c'est-à-dire c'est les tuyaux, les parce tuyaux. Qu'on a une déperdition
exactement,
de
pour
plusieurs
éviter
milliards
cette
de mètres cubes.
Et ça marche, en fait. Ouais. Si on prend l'exemple du président du département de la Haute-Garonne, on voit très bien qu'il a fait face à ce défi-là en innovant. Et donc, je crois qu'il faut sortir de ce débat clivant et il faut aller vers plus d'intelligence, vers le fait de recharger artificiellement massivement les nappes, massivement les sols. Et ça marche. Il y a des solutions agricoles. Il suffit que vous mettiez des systèmes qui freinent les écoulements de l'eau lorsque l'eau tombe pour que vous infiltriez au maximum. On se rend compte que dans les Hauts-de-France, moi j'ai discuté avec des agriculteurs, c'est les seuls qui ont tenu face à la sécheresse. Donc il existe énormément de solutions autres que ce vieux débat qui derrière, je trouve, vient mettre beaucoup trop de tension dans un sujet alors qu'il faut
avec
mettre de l'intelligence.
Ça a des éco-terroristes, évidemment, qu'il y a de la tension. Moi, je fais confiance au bon sens paysan, madame.
Écoutez, moi aussi, mais je crois que d'ailleurs, on n'est plus tous des bons paysans de l'époque, mais si on l'était, en tous les cas, on saurait très bien que les eaux croupissantes ont fait attention et trouvent des
Abel
solutions
Bouilly,
internet.
Question.
Moi, je crois au scénario catastrophe, paradoxalement, parce que toutes les personnes que l'on traite complotistes 20 ans ou 30 ans après les faits, souvent ont raison. Et sur la question du vaccin, on pouvait dire que voilà, on connaît ta position. Moi, ce que je crains, c'est que ce qu'on appelle l'or bleu, et surtout sa partie potable, vient à manquer, et qu'il y ait des profiteurs de guerre demain, des privés, justement, qui vont jouer de ça, au détriment des peuples. Qu'en pensez-vous? Deuxième point, très rapidement, il y a un débat, notamment sur l'eau utilisée dans les toilettes. Est-ce qu'il faut continuer d'utiliser de l'eau potable ou pas? Il y en a qui disent non, il y en a qui disent oui. Quel est votre avis dessus? Et dernier point, avec cette aridité, le sol est très sec. Il faudrait combien de temps pour qu'il puisse retrouver une perméabilité normale?
Alors pour les toilettes, quand vous allez au Luxembourg ou en Belgique, on se rend compte qu'il y a énormément de bâtiments qui sont aménagés intelligemment. Il faut qu'on retrouve cette intelligence et arrêter de penser que effectivement, potentiellement, un enfant pourrait venir boire l'eau des toilettes. Et donc il faut qu'elle soit potable. Je pense que c'est un impensé. Je crois aussi que il y a beaucoup de systèmes de réutilisation de ces eaux usées en sortie, par exemple, de systèmes hôteliers. En fait, toutes ces eaux qui peuvent être traitées sur place et réutilisées, notamment pour les espaces verts. Il y a énormément de solutions intelligentes à penser. Il y a même des expérimentations qui ont été faites sur la Côte d'Azur pour permettre de filtrer et de renouveler l'eau des douches dans les stations balnéaires. En fait, il faut absolument décloisonner tous ces systèmes qui effectivement nous empêchent d'innover massivement. En ce qui concerne la question de la sécheresse, moi ça fait peut-être plus de 10 ans qu'on se voit et que je vois très bien que de manière chronique, j'observe des choses que je n'observais pas avant. Et donc, la température ne fait qu'augmenter. On a l'impression d'avoir toujours la même une. Mois le plus chaud jamais enregistré dans l'histoire. Année la plus chaude. En fait, si ça se répète, c'est simplement que la courbe, elle est linéaire et qu'elle fait que monter. Et donc, le cycle de l'eau s'accélère. Et les switches de passage d'extrême à un autre sont de plus en plus violents. Jamais on aurait imaginé, avec ce qu'il est tombé comme pluie en janvier et février, pouvoir basculer dans un état de sécheresse pareil. On a un peu cette logique de la cigale et la fourmi, où on pense que le stock hivernal va suffire pour l'été et ça ne fonctionne plus parce que quand vous avez des phases caniculaires, l'atmosphère récupère toute l'eau massivement là où elle trouve. C'est pour ça qu'il faut retravailler nos sols, c'est pour ça qu'il faut retravailler nos terres, pour qu'elles soient le plus perméables possible, et quand l'eau arrive, il faut l'infiltrer cette eau massivement. Donc il y a des défis, mais en tous les cas, il y a des solutions et je peux vous assurer que partout où on les met en œuvre, ça marche. Donc c'est simplement qu'il faut les déployer massivement. Je vous donne un exemple. Les assureurs ne veulent quasiment plus assurer les retraits gonflements des argiles parce qu'il y a trop de fissures dans les bâtiments. Il suffit d'avoir des cuvelages enterrés pour pouvoir récupérer l'eau de pluie lorsqu'elle finit toujours par tomber, pour pouvoir ensuite réalimenter autour le sol et éviter la contraction, ce qui évitera ensuite le gonflement et les fissures. Ça marche, on peut réduire 90% du risque et pour autant, on ne le déploie pas massivement. Donc, en fait, on ne manque pas de solutions.
Mais pourquoi on ne
les
applique pas ?
On manque de transformation.
Donc, parce que justement, il faut faire une planification maintenant, il faut réfléchir à une planification sur l'eau, sur l'urbanisme d'une manière générale, avec ces changements de température. Des hivers qui vont être très pluvieux avec des inondations.
Exactement.
Et des étés... En tout cas, tel qu'on les vit pour le moment, et des étés qui vont être très arides. Quoi,
exactement.
Très
donc, stocker l'eau, c'est pas un sujet. Il faut la stocker de manière à ce qu'elle croupisse pas à l'extérieur, qu'elle soit souterraine. Donc, soit vous mettez des cuvelages enterrés à côté des bâtiments, soit derrière, vous récupérez ce trop d'eau et vous re-remplissez les nappes artificiellement. Mais en tous les cas, il faut vraiment, on est à l'heure où il faut mettre de l'intelligence, il faut arrêter tous ces clivages. On en a vraiment besoin. On voit très bien que nous, à la limite, on s'en rend pas compte parce qu'à Paris, il peut y avoir 40 ans de sécheresse. On a un énorme aquifère à 800 mètres sous nos pieds, qui pourrait potentiellement nous alimenter, qui est une réserve stratégique qu'on n'utilise pas, mais on pourrait ne pas manquer d'eau parce que cette nappe de l'Albien derrière pourrait nous fournir largement. Mais il y a des territoires dans lesquels il n'y a pas de niveau souterrain. Regardez la Bretagne, ce qu'elle vit. Les stocks superficiels sont très restreints. Vous avez deux canicules et c'est fini. On bascule dans une situation où on est obligé d'avoir du citernage.
Merci Emma Aziza d'être venue nous
beaucoup.
Éclairer
merci.
Sur cette... guerre de l'eau ou sur cette question va-t-on manquer d'eau ? Merci d'être passé par les GG, par les grandes gueules. Dans un instant, on s'en fout, pas, reste avec nous, il est 10h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Vous êtes avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. Vous allez pouvoir réagir tout à l'heure à 10h au 32-16. On va évoquer ce qui se passe à Saint-Amand-Montrond. On est dans le Cher pour sauver la maternité, la petite maternité. Le maire dit, venez accoucher chez nous, vous aurez une prime et des chèques cadeaux de 1000 euros. Plus on a de naissance, plus on maintient notre maternité. À un moment où un rapport, justement, préconise de fermer les petites structures hospitalières parce qu'elles ont un coût pour les collectivités et elles ne sont pas toujours très performantes au niveau médical. Vous venez en parler avec nous, est-ce qu'il faut sauver les petites structures médicales. 32-16 à partir de 10h. En attendant, c'est long, on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas.
Bonjour Louis Gerbier.
Bonjour les GG, bonjour tout le monde. Juste avant de commencer, faire naître un enfant dans le Cher, c'est très risqué, puisque vous avez une chance de créer un Bruno Poncé. Donc réfléchissez bien avant de le faire.
Tiens, fourni justement... avec t-shirt.
Oui, avec t-shirt de métal. Une actrice X allemande reçue en stage, ou donc dans un commissariat français. On s'en fout pas, Abel.
On s'en fout pas.
Fatima.
On s'y intéresse.
Emmanuel.
Sincèrement, on s'en fout.
Le commandant du divisé. Ah oui. Un petit peu de musique, voilà, sensuelle. Le commandant divisionnaire du commissariat de Saint-Louis, dans le Haut-Rhin, a invité l'actrice X allemande Lara Kumkitten, selon le Canard Enchaîné, pour faire un stage. Des photos supprimées depuis montrent l'actrice avec du matériel d'intervention et en uniforme. La direction générale de la police nationale a annoncé l'ouverture d'une enquête administrative. Fatima.
Fatima, qu'est-ce que t'en penses ?
Qui sommes-nous pour juger le rêve d'un homme ?
Celui qui n'a jamais pêché lui jette la première pierre, c'est ça ?
C'est ça. Non, mais plus sérieusement, c'est... quelle époque incroyable nous vivons. C'est vraiment un camoulox. Actrice, oui. X, allemande, commissariat et photo. C'est-à-dire, ils ont la joie expansive. C'est pas quelque chose
qui s'est déroulé
en catimini.
Oui.
C'est bien le truc où et tu te rends compte que tu fais... il était tellement heureux, on fait des photos... on les montre à tout le monde. C'est Fan 2. C'est la version X de Fan 2. Avec, vous vous rappelez de cette émission incroyable. Donc, écoutez, Ça me dépasse. J'ai l'impression de vivre dans une caméra cachée où on se dit, ben tiens, on va avoir comme ça des... Qu'est-il arrivé dans la tête de cet homme-là ?
Je ne sais pas.
Elle avait l'arme, elle était donc une arme à la main, voilà. Elle était dans
ils
un véhicule
retiré,
de service.
Pas vu les enfin, photos.
Il avait l'uniforme aussi.
Oui, oui, hein. Il avait l'uniforme, il s'est fait plaisir le commissaire quoi. Bah,
comme dit Fatima, fallait voir son regard, tu sais, on avait l'impression enfant. D'un enfant qui oui. rencontre Dorothée
Disney.
Et les musclés pour la première oui. fois, tu vois.
Et sacré Dorothée pour voilà. adulte là, parce que
ah, il était heureux.
Par curiosité, je suis allé voir voilà. quelques images, dit ah ben effectivement.
Effectivement. Non. A priori, c'est pour un stage. Donc, qu'est-ce que l'on attend maintenant? Ben, c'est d'avoir.
Est-ce qu'il doit être
sanctionné? C'est le rapport de stage.
Mais évidemment qu'il doit être sanctionné. C'est-à-dire qu'il n'a pas utilisé les bureaux, les armes, le matériel, quand même. J'ai presque envie de dire de la République pour ses penchants personnels. Donc, pour l'image de la police, c'est pas très glorieux. Et j'espère aussi qu'il y aura une sanction. Parce que je pense que dans toute boîte normale, si on a le malheur de faire ça, je pense qu'on a même de grands risques de perdre son poste. Mais par curiosité, j'ai envie de savoir quel est le contenu de ce stage. Pourquoi ce stage? Quel est le besoin et quel est l'objectif?
Qu'est-ce voilà. qu'il lui a pris de contacter voilà. cette actrice voilà, pour exactement. La faire venir en... Elle était ravie hein, sur son bah oui, compte bah, Instagram. Normal. Elle a dit « Je suis ravie d'avoir pu partager cette expérience de stage de police oui. avec les
inviter,
hommes de Saint-Louis. »
Inviter cet homme, on a envie de l'entendre.
Et donc, oui, finalement, enchaîne. Tout le monde est content. La stagiaire, le maître de stage, pourquoi on s'énerve? Allez, on enchaîne. Fuite de données ouais. sur le site des impôts. On s'en fout pas, Emmanuel.
On s'en fout pas.
Fatima.
Ah, on s'inquiète, mais.
Et Abel.
Je m'en fous.
T'en fous. Le système d'information des impôts a été victime d'un piratage informatique. Les données de 678 000 personnes seraient concernées. On parle de pas loin de 400 000 particuliers. Bercy a confirmé cela deux mois après les faits. On a attendu que les méchants révèlent qu'ils avaient fait une action malveillante pour dire oui, c'est vrai. On s'est fait avoir.
Là, c'est une faute.
C'est un scandale.
Là. Ça, c'est un scandale, ça.
Bercy quand même confirme malgré tout que les usagers concernés recevront une information individuelle précisant les données susceptibles d'avoir été consultées ou extraites. Abel.
Non, il s'en fout. Ah non. Emmanuel et Fatima Emmanuel.
C'est évidemment surprenant et déconcertant parce qu'on imaginerait avec le caractère très important de la confidentialité fiscale que ça soit impénétrable. Il y a des dizaines de spécialistes qui travaillent là-dessus. Ensuite, pourquoi publier l'information pour jeter un flou supplémentaire, il vaudrait mieux faire ce que tu viens de dire, c'est-à-dire informer les personnes sans en faire un tambourinage médiatique, parce que tout le monde s'inquiète pour tout et n'importe quoi, y compris pour des prélèvements, puisque l'administration fiscale dispose des coordonnées bancaires des assujettis. Non, ça fait pas joli dans le paysage et là, ça devrait aussi occasionner des sanctions parce que c'est totalement anormal à l'échelon de l'État français.
Fatima.
C'est très, très, très inquiétant. Et c'est un scandale. On en a fait un, on s'en fout, ou on c'est le, on un OSEF, mais ça mériterait même un sujet complet, tel c'est un, combien c'est important. Vous vous souvenez quand on parlait déjà du tout numérique, quand on voulait, il y a 10 ans, quand on allait vers le tout numérique, et je vous disais mes réticences, et la première de mes réticences était, si on va vers le tout numérique, il va falloir garantir une sécurité, parce que là, ils nous demandent, mettez toutes vos données sur Internet et tout ça, le piratage du site des impôts, donc normalement ce qui devrait être très 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 sécurisé, c'est grave. Pourquoi? Usurpation d'identité. Ça veut dire toutes les personnes à qui on a pris, vous vous rendez compte, on peut faire des emprunts, on peut louer des appartements, on peut faire plein de choses avec vos données. Et je ne sais pas si vous avez déjà subi une usurpation d'identité, mais c'est très compliqué de prouver que vous êtes vous. Ça veut dire que lorsqu'on on emprunte à votre nom, lorsqu'on fait des choses avec votre nom, avec vos vrais papiers, c'est très dur de prouver que vous n'êtes pas, que la personne n'est pas vous. Donc, pour moi, c'est un scandale. Et surtout, le fait qu'ils essayent de cacher un peu les choses,
ça
rajoute un scandale au scandale. Sachant qu'ils ont déjà fait ça avec les petites maternités. Vous savez, il y a le classement de la France. Il y avait un classement où la France est très bas. Et c'est le Canard Enchaîné qui avait révélé qu'ils essayaient de le cacher. Et après, donc, du coup, ils ont dû le montrer à tout le monde. Donc, non seulement ils ne veulent pas régler les problèmes, mais ils veulent cacher le problème au grand public. Donc, non, moi, je suis très, très contente d'être au courant. Parce que maintenant, ils disent on allait nous informer. Je suis sûr qu'ils n'allaient même pas. Ils n'allaient même pas informer.
Combien de fois ça s'est produit? Combien de piratages y a-t-il eu au niveau des services de l'État sans qu'on soit prévenu? Rappelle le petit message que va envoyer le fisc justement aux utilisateurs. Vas-y, redonne-le.
Eh ben, justement, un mail, une information individuelle qui va vous préciser les données susceptibles d'avoir été piratées.
Oui, mais.
Non, mais moi, ce que je veux, c'est l'accompagnement.
Ce qui est fou, ça veut dire que. Imagine, comme le dit Fatima. d'un coup, tu te retrouves avec des prélèvements et tu cherches à savoir comment ça a été piraté. Ouais. Ça a été piraté sur le site des impôts et on t'a pas informé pendant, informé pendant deux mois. Mais c'est franchement,
c'est
un scandale d'État.
Et surtout, moi, je veux la garantie d'un accompagnement. Ça veut dire si dans les mois ou les années à venir, parce qu'ils font pas tout de suite, il nous arrive quelque chose où il y a une usurpation d'identité, dans ces cas-là, ils nous accompagnent sur toutes les démarches. Parce que c'est l'errance pour les gens qui sont victimes de tout ça. Moi, je vous dis, ça va être dans les années à venir, les deepfakes, c'est-à-dire les manipulations d'images, le problème d'usurpation d'identité, ça va être le problème majeur pour énormément de Français.
Non, mais le con, mais toi, je finis, Emmanuel, parce qu'ils te disent, les usagers concernés vont recevoir une information individuelle et le cas échéant, les mesures de vigilance à adopter. Vous vous foutez de nous.
C'est trop tard. Non,
mais les mesures de vigilance, c'est vous qui deviez les avoir, les mesures de vigilance. Alain, on nous pousse à mettre toutes nos données, à tout informatiser, et là on dit, attendez, et on va vous dire comment vous allez vous protéger.
Oui, non, oui, mais
vous plaisantez ou quoi?
Et ils veulent qu'on continue de le faire.
Pour te répondre, Alain, il n'est pas possible, il n'est techniquement pas possible que les contribuables aient un prélèvement.
C'est pas le prélèvement, c'est qu'on vend tes données ensuite.
Après, c'est vendu sur le darknet.
C'est-à-dire, c'est ton adresse, ton adresse mail,
ton avis d'imposition,
et derrière, ça peut nourrir des fichiers, ça peut nourrir des pirates.
Et alors, on parle des ingérences étrangères, tes données peuvent se retrouver, le numéro de ton compte bancaire et tout. Et c'est terrible. Et ce qui est terrible, désolé, j'avais dit je m'en fous, mais je suis obligé de réagir. Il n'y aura pas de responsable encore. Fut une époque, pour moins que ça, même si le milieu politique a toujours été bizarre, on faisait démissionner le ministre en charge du service.
Allez, à tout de suite avec les grandes gueules.
Attendons les développements.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.